Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
J'ai jamais décidé de me retirer de la société, au contraire en fait. Si je vis aujourd'hui dans une cabane dans la forêt, c'est justement parce que je veux vivre avec la société.
Oser une vie en accord avec ses valeurs, simple et en autonomie, Jonathan Attias l'a fait. Aujourd'hui pionnier dans la désobéissance fertile, il assume un choix de vie au plus près de la nature pour retrouver ce qu'il avait perdu au milieu des routes enlacées de Paris, son temps. En s'opposant à la destruction du vivant pour régénérer l'environnement, Jonathan vise à créer de nouveaux systèmes au sein desquels l'humain cohabite durablement avec les autres espèces vivantes. Cette vie est loin de celle qu'il imaginait il y a quelques années. Sa déviation, il nous la raconte aujourd'hui.
Bonjour, je m'appelle Jonathan Attias, j'ai 34 ans. J'habite actuellement dans la forêt avec ma femme et nos deux enfants. Nous sommes à l'initiative d'un courant de pensée qui s'intitule la désobéissance fertile, qui prône le fait de pouvoir vivre en se rapprochant des écosystèmes vivants, et cela, quoi qu'en disent les lois institutionnelles. Voilà. Je suis né dans le 16e arrondissement, à Paris, dans un milieu intellectuel, cultivé, avec beaucoup d'amour, ce qui m'a entraîné à avoir un parcours assez traditionnel à travers mes études, puisque j'ai fait une école de commerce, et à la suite de cela, j'ai refait un autre Master 2 à la Sorbonne, cette fois-ci en production audiovisuelle. Et j'imaginais ma vie, mon futur, mon destin, en évoluant dans ce milieu-là, qui a été le mien, qui est le seul que j'ai vraiment côtoyé, même si de par mes études, de par l'éducation reçue à travers mes parents, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, découvrir d'autres cultures. Et je pense que voilà, on a coutume de dire que le voyage fait grandir. Et c'est vrai que ça devient un peu une phrase bateau. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait, de pouvoir voyager et de pouvoir, de cette façon-là, déployer mon imaginaire, avoir le monde un peu autrement. Néanmoins, je me suis toujours vu vivre à Paris, dans des quartiers aisés, avoir un rythme de vie qui était le mien, c'est-à-dire sortir, répondre à toutes les cases auxquelles on devrait se conformer en suivant un schéma classique. Et puis, à un moment donné, il est arrivé cette crise économique de 2008. J'étais encore en école de commerce, j'ai pas vraiment pris conscience de l'importance que ça allait jouer dans ma vie. Mais 2 ans et demi plus tard, donc en 2010, je suis tombé sur un documentaire en fait qui s'intitule « La stratégie du choc » d'une femme qui s'appelle Naomi Klein. Et moi qui étais complètement féru d'histoire, je découvrais que il y avait notamment l'histoire du libéralisme n'était pas du tout celle que je m'étais construite durant mon école de commerce. J'ai réalisé que l'histoire, en fait, n'était qu'une question d'interprétation et comme une obsession à partir de ce point-là, j'ai cherché à comprendre quelle était l'histoire peut-être alternative du monde. Et donc, j'ai mis le nez dans des scandales géopolitiques, des affaires sanitaires et je suis passé vraiment par une phase de déprime, vraiment, je peux l'affirmer, de plusieurs années, dans laquelle j'ai perdu toute envie de contribuer à la société, déjà d'une. C'est-à-dire que mon métier que je voyais, alors à ce moment-là, je concevais des programmes de télévision. J'étais concepteur d'émissions de télé, qui était quelque chose qui était assez valorisé socialement et qui, moi, intellectuellement, en plus, me plaisait. D'un seul coup, c'était devenu complètement superflu. Il était hors de question que je continue à contribuer à cet asservissement-là. Sauf que je ne savais pas quelle place jouer et occuper dans la société. Donc j'ai passé 2 ans vraiment, littéralement, à m'informer, à lire des rapports scientifiques, à lire des rapports de l'ONU, de l'OMS, de l'OMC, à déconstruire toutes les croyances que je m'étais forgées jusqu'alors, jusqu'à ce que je trouve un sujet qui me passionne, en fait. Un combat qui pour moi, méritait d'être mené et qui ne l'était pas à ce moment-là ou trop peu médiatisé, c'est la préservation des semences paysannes. On a quitté Paris il y a 3 ans maintenant et on est parti d'abord en van avec notre première fille, Elia, pour découvrir des lieux existants, des alternatives qui faisaient ce choix d'apprendre à vivre proche de la nature. Et donc on a rencontré beaucoup d'initiatives, beaucoup d'initiateurs qui, bien souvent, nous racontaient qu'il était très difficile de faire émerger des projets de vie en société collectif dans la nature, parce que nous vivons en collectif. Et le premier des freins à cela était les normes administratives. Il y avait une quantité de conditions à appliquer pour pouvoir créer un écolieu ou pour pouvoir créer tout simplement un habitat alternatif que soit ça décourageait beaucoup de personnes qui se lançaient là-dedans, soit ça dénaturait le rêve, la vision initiale qu'avaient ces porteurs de projets parce qu'ils se sentaient obligés de se conformer à cette façon de vivre. Et nous, on s'est regardé avec Caroline, on s'est dit, mais il est hors de question qu'on ne rêve pas cette existence. Et notre impulsion initiale en partant de Paris, la région parisienne, a été de dire, on veut vivre cette utopie-là. On veut vraiment l'incarner. On veut le faire comme une expérience. Et il n'est pas question qu'il y ait des lois proprement contre nature qui nous empêchent de faire cette expérience de vie dans la nature. On habite sur un terrain en Corrèze, dans une cabane que nous avons construite avec Caroline. Elle est composée essentiellement donc de bois pour la charpente, puisqu'on a des toits qu'on dit autoportés. C'est difficile de le visualiser, mais en gros, chaque perche de toit va en soutenir une autre et être soutenue par une autre, ce qui donne une architecture très lumineuse et surtout géométrique. Ensuite de quoi, les murs sont composés de bottes de paille. Et on plante des bambous dedans pour les faire tenir les uns aux autres. Une fois ces murs posés, on met des couches de terre argileuse pour constituer l'isolation. On a une superbe vue sur la vallée qui nous permet d'avoir énormément de lumière qui entre. Et c'est drôle parce que parfois, on couche nos filles le soir, on a l'électricité, on a des panneaux solaires, l'eau, on la capte d'une source et on la fait descendre par gravité jusqu'à notre robinet. Mais j'ai appris à aimer en fait la bougie. Le soir, lorsqu'on couche nos filles, on s'allume quelques bougies avec Caroline et on profite du silence qu'il y a complètement dans la cabane pour se regarder et réaliser en fait que ce qu'on vit là, c'est un rêve éveillé. Et chaque jour, que ce soit en ouvrant les yeux le matin ou en allant me coucher le soir, je remercie cette force, cette énergie. L'univers, je ne sais pas comment on peut appeler, je remercie en fait de pouvoir vivre ce destin-là parce que j'ai la sensation qu'on a une chance extraordinaire. Donc, comment se passe une journée chez nous ? Le matin, on se réveille et on entend beaucoup de chants d'oiseaux généralement. Alors, ça dépend de la saison évidemment. Je vais parler de ma saison préférée qui est le printemps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que François, dans sa technique de construction des cabanes, a décidé d'enduire les murs intérieurs des cabanes, mais jamais les murs extérieurs. Pourquoi ? Parce qu'il veut que les oiseaux puissent constituer leur nid dans les bottes de paille. Ce qui fait qu'au printemps, tout autour de chez nous, nous avons des petits nids d'oiseaux qui se constituent et donc on se réveille avec les premiers rayons de soleil et des chants d'oiseaux au matin à 360 degrés. Bon, j'avoue que parfois, on aimerait bien dormir un peu plus longtemps, c'est vrai. Mais quand on a décidé d'être parents, de toutes les façons, on tire une croix complètement sur la grasse matinée. Donc on se réveille avec ces chants d'oiseaux et puis comme on habite tous dans cette cabane, on a chacun un lit, un espace qui nous est propre. Mais globalement, le matin, c'est l'occasion de se retrouver, de prendre ce temps-là ensemble, de faire un super petit déjeuner composé d'avoine, de choses comme ça. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une des personnes qui va s'occuper des enfants si c'est le week-end, sinon il y a l'école, et l'autre va pouvoir disposer de son temps comme il l'entend. Ça nous permet à la fois d'avoir des moments vraiment de qualité avec les filles et à la fois aussi de pouvoir continuer à travailler, développer nos activités à Caroline et moi. C'est une vraie poésie. Et en fait, cette poésie-là, elle est différente à chaque saison. Et la chance de pouvoir vivre dans la nature, c'est vraiment d'évoluer au rythme de ces saisons. Beaucoup de gens pensent d'ailleurs que l'hiver est une saison qui est difficile pour nous, alors que c'est peut-être celle qui, en tout cas chez nous, dans la cabane, est la plus agréable, parce que c'est un véritable cocon. On a ce poêle au milieu dans lequel on met le bois qui nous chauffe. Et puis c'est vraiment un temps de repli où la nuit tombe tôt et on se sent vraiment protégé dans cette cabane-là. Ça permet cette introspection-là qui fait beaucoup de bien quand on aspire à vivre aussi un peu au calme, voilà, sortir de l'agitation qui était la nôtre par le passé. La nature, elle m'apprend plusieurs choses. Elle m'apprend le temps, déjà. En mettant les mains dans la terre, elle m'apprend que si je veux prendre soin à un moment d'un territoire, d'un espace, il faut que je prenne le temps de vivre non pas au rythme que je souhaiterais imposer, mais au rythme dont les cycles ont besoin. Elle m'apprend aussi qu'on est capable de vivre en bonne collaboration, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui vivent entre elles. Je pense notamment à toutes les espèces qui vont s'abreuver dans les mares qu'on a constituées autour des cabanes. C'est qu'il peut aussi bien y avoir des oiseaux qui viennent que des petits animaux terrestres sauvages qui vont, et personne dit que c'est la propriété de quelqu'un que de vivre de cette façon-là. Et en fait, je trouve que voilà, ça permet vraiment de rétablir notre place, parce qu'aujourd'hui, le principe même de nos sociétés, il est régi sur le droit de propriété, donc d'accaparement d'une ressource. Or, lorsqu'on habite dans la nature, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une personne qui va chasser les autres en disant « ici, c'est chez moi ». Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, nous, on est face à des difficultés avec la mairie qui ne tolère pas que nous puissions vivre sur nos propres terrains de façon écologique. Et en fait, on est face à des réticences, des freins que nous avons imposés, les sociétés humaines, mais qui ne sont pas du tout à l'image de ce qui se passe dans la nature. Et je pense d'ailleurs qu'un des problèmes majeurs que l'on a aujourd'hui dans la société, c'est qu'on raisonne selon un raisonnement très urbain, très hors sol. J'aimerais bien que tous les politiques qui prennent des mesures lorsqu'il s'agit de biodiversité notamment aillent réellement dans la nature, aillent réellement mettre les mains dans la terre, parce que en fait aujourd'hui on est dans un monde hyper fragmenté, hyper avec énormément de lois et très technique, dans lequel on est complètement déconnecté des interactions, déconnecté des cycles, déconnecté de la vie. Et je trouve que le fait de changer littéralement d'environnement nous amène complètement à revoir notre place en tant qu'humain. C'est comme si, en fait, je peux parler que de moi, parce que je vais pas faire de grandes leçons. C'est que avant, lorsque j'habitais à Paris, j'avais envie de répondre à des besoins très fréquents, je sais pas, avoir un bien matériel à un moment donné, ou avoir un objectif dans mon travail, ou changer de logement. Et en fait, c'est comme si je perdais la visée globale de mon objectif. Et là, en fait, le fait d'habiter proche de la nature, ça me permet souvent de mettre en perspective mon objectif, savoir ce que je veux, savoir surtout si mon action est juste ou si elle ne l'est pas par rapport à ce rapport temporel. Et c'est ce dont je parle dans le livre, de changer de vision et de rapport temporel, parce que la ville entraîne une urgence permanente, chose que la nature n'a pas. Et c'est vrai que si on prend les rapports scientifiques que l'on a aujourd'hui, qui sont très alarmants et très alarmistes à juste titre, mais en fait, c'est que des chiffres que l'on voit sur un papier ou sur un écran. Et le fait de constater, lorsqu'on habite dans la nature, effectivement, qu'il n'y a plus ces espèces, par exemple, que le fait de déverser des pesticides, des poisons, ça tue, et on voit que ça engendre cette mort-là, et ben ça nous permettrait d'agir beaucoup plus concrètement que on le fait aujourd'hui, par exemple en signant des pétitions sur Internet. Et je trouve que le fait de vivre dans la nature est absolument nécessaire pour pouvoir défendre la vie. On a besoin de faire partie de cette nature pour pouvoir la défendre. J'ai jamais décidé de me retirer de la société, au contraire en fait. Si je vis aujourd'hui dans une cabane dans la forêt, c'est justement parce que je veux vivre avec la société. Et si on affirme avec Caroline notre façon de vivre ainsi dans la forêt et cette nécessité de réapprendre à vivre avec les autres espèces, c'est justement pour que les normes sociétales évoluent. Toute l'action qu'on oriente aujourd'hui à travers notre vie, ce qu'on essaye d'incarner et les valeurs qu'on porte sont de façon à vivre et à faire évoluer la société, à préserver avant tout notre espèce, parce qu'on est face à des catastrophes écosystémiques qui nous pendonnaient, qui sont assez, abyssal. Et c'est parce qu'on aime, en fait, les gens. C'est parce qu'on aime la vie que nous, on a emprunté cette voie-là. En fait, on a évalué quels étaient nos besoins. On avait tous deux des salaires. Caroline travaillait, gérait des établissements de luxe à ce moment-là. Moi, je venais de réaliser un documentaire qui est sorti au cinéma qui s'intitule « Déclic de conscience ». C'est pas pour autant qu'on avait de grosses, enfin, en tout cas, personnellement, que j'avais de grosses rentrées d'argent, mais en tout cas, on avait une nécessité de gagner plus notre vie quand on part en vivre dans la forêt. Mais on a toujours des besoins, on a des enfants, on a nous-mêmes envie, d'acheter des produits de qualité quand il s'agit de nous nourrir, par exemple, ou de voyager. Et donc, on travaille, Caroline et moi, aujourd'hui. Moi, j'enseigne à l'université. J'enseigne la communication politique. Je suis journaliste à côté de ça également. Et Caroline, elle, pour le coup, une activité associative pour accompagner les femmes à l'accouchement physiologique. Et là, progressivement, elle est en train de développer ce qu'on nomme une doula, qui est vraiment un accompagnement auprès d'une sage-femme pour toutes les femmes qui aspirent à accoucher à la maison. Et donc, on a des rentrées d'argent, mais qu'on a quand même bien réduit par rapport à nos besoins parisiens, parce que évidemment on n'a pas de loyer, parce que la vie coûte beaucoup moins cher, et j'apprends ça à rien ni à personne quand on quitte Paris, ça coûte extrêmement cher, et surtout on dispose d'une ressource extraordinaire maintenant, c'est du temps, chose qu'on n'avait pas dans nos vies passées, parce qu'on travaillait énormément pour acheter les biens dont on voulait profiter, tandis que là nous disposons du temps pour faire ce que l'on veut, pour pouvoir voir grandir nos filles, pour pouvoir développer les activités qui nous stimulent. Et donc, on est beaucoup moins riche d'un point de vue financier, mais on est beaucoup plus riche en temps. Il y a une chose qui change encore, mais qui a beaucoup changé ces deux dernières années, c'est mon rapport à la solitude. Moi, je suis vraiment un être social. Je fais tout le temps pour être entouré, pour ne pas être face au vide que pourrait être mon existence, en fait. Que ce soit en allant regarder un film, en allant me divertir, j'ai beaucoup d'amis. Et à Paris, j'avais énormément d'amis. Et à un moment, quand on est parti avec Caro, donc on était en hiver, c'était le premier hiver qu'on passait, on était dans un petit chalet que l'on louait pendant qu'on construisait la cabane, et j'avais des crises d'angoisse. J'avais l'impression de passer à côté de ma vie, littéralement. Je me disais, mais en fait, il y a le monde là, et moi, je suis à côté du monde, et je suis en train de passer à côté de tout. Enfin, c'était toute cette peur de manquer quelque chose qui me rattrapait. Et puis, en fait, j'ai pas eu le choix, parce que comme j'ai vivais de cette façon-là, avec cette période un peu plus seule en hiver, j'ai commencé à faire face à cette solitude. Et progressivement, elle est passée du stade d'ennemi à celui d'allié. Si bien qu'aujourd'hui, j'aspire vraiment à avoir ces moments seuls. Et en cela, le premier confinement qu'on a eu au tout début du printemps, j'étais seul à ce moment-là, avec en plus cette nature qui se déployait. Mais j'ai compris que c'était devenu à ce moment-là, quelque chose auquel j'aspirais. Vivre cette solitude. Alors que je la fuyais par le passé, maintenant, je suis prêt à le vivre. Alors je ne dis pas que je pourrais vivre seul éternellement, loin de là. Je continue à avoir cette envie de vivre avec les autres. Mais en tout cas, j'ai plus peur de cela. Et je pense que dans les années à venir, je vais travailler aussi à collaborer avec les autres. J'ai beaucoup de difficultés à collaborer. C'est comme si toute ma vie, j'avais appris à vivre que pour moi, par moi, pour répondre à mes propres désirs. Et en fait, j'arrive maintenant à une vie en société, en collectif, où je dois sortir de tous ces schémas. C'est peut-être une des choses qui est les plus difficiles dans le fait de vivre ensemble en collectif, en créant ces nouvelles aventures, c'est vivre ensemble, entre humains. Mais en même temps, c'est un enjeu qui est formidable parce que je me vois grandir. Je vois que je suis plus à l'écoute aussi des personnes avec qui je vis. Et en cela, je travaille mon intériorité. Comme si jusqu'alors, j'avais fait que travailler mes actions extérieures et je refusais un peu de faire ce travail. Et là, maintenant, je suis en plein dedans, en fait. C'est douloureux, c'est pas facile. Parfois, j'ai envie de m'énerver quand je pense à ça. Mais le fait de vivre en collectif, de vivre ensemble, ça me permet de travailler, moi, qui je suis, Jonathan Attias, à l'intérieur de moi. Et j'ai des montagnes à gravir, je te raconte même pas. Je pense qu'au vu de la situation actuelle, on a d'autres choix que de développer des utopies et de ne pas nous freiner par les conventions sociales, sociétales, législatives auxquelles la société veut nous contraindre. Évidemment, il est important de questionner nos rêves, il est important de questionner le sens de nos actions, mais en tous les cas, d'y aller, de ne pas avoir peur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est gouverné par la peur, que toutes les actions qu'on va faire, elles vont être faites par rapport au regard que nos parents peuvent avoir de nous, que la société va pouvoir avoir de nous, ou même que la loi nous autorise ou pas. Alors même que cette société-là nous a entraînés dans les dysfonctionnements et dans les destructions que l'on constate actuellement. Je trouve que ma vie est devenue hyper heureuse et excitante à partir du moment où je me suis lancé. Et c'est comme si la providence s'était mise sur mon chemin pour m'amener plein de rencontres, plein de synchronicités, plein de choses incroyables qui me faisaient dire « Jonathan, il suffit juste de faire le premier pas, de lancer la première impulsion et tu vas voir, je vais être avec toi. » Et c'est incroyable aujourd'hui, comme tout ce qui nous arrive avec Caro a été évidemment un choix initial, mais en fait le fruit d'aides extérieures qui nous sont parvenues tout à fait par hasard, entre guillemets, parce qu'on avait fait ce premier pas. Et moi, le conseil que je veux donner, c'est faites le premier pas. Allez-y. Allez, marchez un peu plus vers votre rêve et vous verrez. Vous verrez que les choses s'aggloméreront. Le monde fera que on ira vers ce rêve-là. Ouais.
Jonathan, merci beaucoup pour cette conversation.
Avec plaisir.
Pour terminer, je vais te demander de choisir un passage de ton livre que tu souhaiterais nous partager ici.
Avec joie. Alors, tous les chapitres commencent avec une citation. Et celle-ci, c'est un proverbe Hopi qui dit « Nous sommes celles et ceux que nous attendions ». À quel moment l'avenir a-t-il cessé d'être une promesse pour devenir une source d'inquiétude ? Les contraintes s'accumulent et les défis semblent infinis pour simplement parvenir à vivre en harmonie avec la nature. Où est donc le plaisir dans tout cela ? Se demanderont certains en pesant le pour et le contre des sacrifices nécessaires pour y parvenir. De fait, comment peut-on espérer, après avoir succombé au charme d'un modernisme dont la promesse tient en des jouissances instantanées et un confort prétendument illimité, tendre vers la rusticité pour agrémenter nos existences ? Ma réponse est simple. Parce que la joie de nos existences humaines tient justement dans notre capacité à agir selon nos aspirations profondes. Les destins aventureux sont comme des écoles au sein desquelles les individus sont toujours en apprentissage, en évolution. En agissant comme des chevalières et des chevaliers au service du vivant, nous mesurons toute l'importance de cette notion d'évolution. Elle signifie pour nous la capacité à nous remettre en question et à juger les actions passées sur l'autel de la lucidité. Aujourd'hui, notre évolution appelle des actions nouvelles, qui permettent d'avancer vers un avenir à la fois durable et désirable, pour pérenniser l'existence de notre espèce en cohabitant avec les autres. Car l'enjeu majeur est là. Après avoir évolué et nous être adaptés biologiquement pendant des milliers et des milliers d'années, nous avons le devoir de muter, non pas physiquement cette fois, mais comportementalement, si nous voulons continuer à écrire notre histoire. En cela, un défi extraordinaire s'offre à nous. Nous devons nous réinventer et grandir pour apprendre à cohabiter avec les vivants. Cette période de transition humaine suffit à elle seule à légitimer le sens profond de nos existences et de nos actions. Jamais, de mémoire d'humain, un défi aussi puissant s'est imposé. Nous avons une capacité de transcendance infinie, et une seule et unique question doit à présent nous guider. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver notre humanité ? De notre amour pour les humains et pour la Terre dépendront nos actions et nos engagements, car cette transcendance ne pourra se déployer que si notre amour pour nos semblables est assez fort pour accepter de nous dépasser. Les connaissances se heurteront toujours aux limites imposées par la raison. L'amour, à l'inverse, cherchera toujours à dépasser ses limites. Il est à la fois notre moteur et notre espoir. La Terre est là pour nous montrer le chemin, elle qui continue à nous nourrir et à nous accueillir malgré tous les sévices que nous lui infligeons. Le temps est donc venu de lui rendre ce qu'elle nous a apporté, en œuvrant à co-créer progressivement avec elle de nouveaux espaces de vie. À cet égard, les forêts primaires que propose de recréer le célèbre botaniste Francis Allais sont un défi infini. Il nous faudra un millénaire pour espérer en reconstituer en Europe. Bien sûr, aucun d'entre nous n'en verra le résultat de son vivant. Mais nous pouvons œuvrer humblement à reconstituer ce lien entre les générations à travers des actions dont la portée nous dépasse, pour que chaque incarnation présente et future trouve son sens dans la mise en place et la protection de ces forêts contre de futurs périls. Il est temps de retrouver nos places de gardiens au sein de la nature, d'agir en prenant bien sûr en compte les signaux d'alarme lancés par les scientifiques, tout en sortant d'une urgence frénétique qui nous pousse à nous précipiter. Inscrivons nos actions sur le long cours en apprenant tout d'abord, pour emprunter ces termes à Hervé Covès, à récolter le soleil, à cultiver la pluie et à travailler à la mise en place de trames vertes et de trames bleues pour permettre le voyage des espèces d'un point à un autre du globe, à s'adapter aux différents écosystèmes et enfin à libérer de très grandes étendues pour en sanctuariser les espaces. Nous sommes toutes et tous liés, et notre destin dépendra du soin que nous nous apporterons mutuellement, unis entre espèces et au sein d'une même espèce. Les équilibres sont fragiles, et cette vulnérabilité, au lieu de nous inquiéter, doit être notre force. C'est en côtoyant la mort que nous prenons pleinement conscience du caractère infiniment précieux de la vie. L'enjeu n'est plus tant de savoir comment nous allons nourrir les humains, mais de savoir comment nous allons vivre avec la Terre pour conquérir notre humanité.
C'était un entretien mené et réalisé par Victoria Guillaumont pour Les Déviations. Nous sommes un média indépendant à retrouver sur Acast, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook et sur lesdéviations.fr. Pour nous encourager, commentez, écrivez-nous, partagez et ne vous retenez pas sur les étoiles et les pouces levés. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter les histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.